Bonjour frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être avec vous, de vous encourager, de s'encourager mutuellement. J'ai été surpris de la présentation par Pascal de sa façon de parler de notre vie spirituelle et du Saint-Esprit, et ça va dans le sens de ce que je veux vous dire. D'abord, vous êtes né nouveau. Vous avez donné votre cœur à Dieu. Vous avez compris quelque chose que beaucoup de gens dans le monde ne comprennent pas. Et vous avez acquis, sans le savoir, même sans vous en rendre compte, sans que nous en rendions compte, une vision des choses qui va bien plus loin que le commun des mortels, dirions-nous. Hein? Et le sujet que je veux aborder, c'est le titre, c'est « Voir au-delà du visible ».« Voir au-delà du visible ». Vous avez certainement des exemples de gens qui ont vu au-delà du visible dans la Bible, et pas uniquement dans la Bible, il y a des gens qui sont visionnaires, hein, qui voient des choses pour leurs propres intérêts. Hein. Bon. Mais là, quand je parle de voir au-delà du visible, c'est pour les chrétiens, pour ceux qui se sont donnés à Dieu, et qui ont un seul maître, Dieu, puis eux, Dieu, et qui sentent des choses. Tout d'un coup, ils pensent que c'est plus ça que ça qu'il faudrait faire. Et ils sont quelquefois perplexes parce que ils se disent, mais est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Ou est-ce que c'est mon intuition? C'est quelque chose? Et les choses ne sont pas forcément très très tranquilles avec Dieu. Il ne nous répond pas forcément. Et il nous laisse partir dans des situations qui nous semblent les meilleures pour nous, pour Dieu. Hein, voilà. Voir au-delà du visible. Est-ce que vous avez la capacité de voir la réalité qui se cache derrière ce qui est visible? Et quelquefois, le visible, c'est un leurre. Ce peut être quelque chose qui, finalement, n'est pas du tout ça. Et vous voyez quelque chose, et si vous vous laissez séduire par ce que vous voyez sans réflexion, vous pouvez être interloqué. Il y a même des gens qui se sont évertués de tromper l'ennemi. Je vous donne un exemple. Un exemple, c'est en 1945. En 1945, en survolant le sud de l'Angleterre, les Allemands, ils ont vu des choses. Ils ont vu, il y a des bateaux là-bas, il y a plein de bateaux dans le Kent qui sont dans les fleuves là, ils sont stockés là, des tankers pour le carburant, donc forcément il y a un projet, hein, et donc ces Allemands ne peuvent pas aller trop près bien sûr, hein, et ils voient tout ça, ces bateaux de guerre qui flottent sur l'eau, ils voient des tanks, des chars d'assaut, des milliers de chars d'assaut. Et en fait, ce sont des baudruches pour tromper l'ennemi, des bateaux en contreplaqué. Ouais. C'est ce qui est arrivé à cette dernière guerre mondiale, et ça s'appelait l'opération, je ne sais pas si vous connaissez, Fortitude. Hein? Fortitude. Et qui a réussi à faire croire aux Allemands que le débarquement allait se faire, mais qui allait se faire au Pas-de-Calais et en Norvège. Et alors, tout avait été fait de telle manière que, des visus, il était évident qu'il y avait une grande invasion qui allait se produire par le nord de la France, etc. Et en fait, c'était de faire croire aux Allemands que le débarquement ne se ferait pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais, en Norvège. Voilà. C'était des leurres. Hein. on peut se tromper sur le visible. Et je crois que le chrétien ne se trompe pas sur le visible. Parfois, il peut être séduit, c'est sûr. Mais généralement, il n'est pas sensible, trop sensible au visible. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, on nous dit « je vois, tu vois, nous voyons ». Ce que nous avons vu, c'est clair, c'est ça, c'est sûr. Parce que secrètement, quelque part, on se dit qu'on a raison de voir et de bien voir. Et on ne se pose pas la question, en tant qu'être humain, que ce qu'on a vu n'est pas forcément la vérité. Or, le chrétien a quelque chose de plus de ça. Il n'est pas son propre maître. Il y a un maître derrière et qui l'aide à dire « Oh, tu sais, méfie-toi ». Et vous avez des cas dans la parole de Dieu qui sont dramatiques et dans lesquels il fallait se méfier. Se tromper sur le visible, ça peut avoir de grandes conséquences. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment voir au-delà du visible ? C'est important de savoir comment. Comment on peut faire ? On peut étudier, on peut analyser finement, ouais. On peut regarder de tous les côtés, sur toutes les coutures. En tout cas, prendre le temps pour éviter de se tromper. L'Éternel dit à Samuel, pourtant c'est Samuel, il lui dit, ne prends point garde à l'apparence, à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et à la fin, Samuel dit, mais c'est là tous tes fils ? Oh, ah ben non, il y en a encore un. Il est avec les bergers. Et Samuel lui dit, mais voilà. Vous voyez, un homme de Dieu, Samuel, peut se laisser, pourtant Samuel, il peut se laisser séduire, mais il y a toujours quelque chose qui est derrière. C'est que Samuel ne vient pas, selon sa propre initiative, oindre le futur roi d'Israël. Non, il le fait parce qu'il obéit à Dieu. Et cette obéissance l'amène à être toujours prudent, même si parfois l'apparence est trompeuse. L'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous aussi, nous pouvons être séduits si nous disons « Je sais, moi, j'ai vu. Vous savez ce qui se passe dans ce monde. C'est moi, j'ai vu. » C'est les éoliennes qu'il faut faire, parce que c'est comme ça que ça va marcher, et puis plus de centrales nucléaires. Non, c'est pas comme ça, moi j'ai vu autre chose. Et puis, moi je vois que c'est la lutte des classes qu'il faut, parce que c'est ça qu'il faut, parce que j'ai vu. Ah, mais non, tu as mal vu, parce que c'est l'économie du marché qui doit marcher. Il faut de l'économie, moi j'ai vu. Et tous ces gens sont là, et nous voyons avec ces élections qui vont commencer que tout le monde a vu. Et nous ne savons que nous n'ont rien vu. Rien vu. Ils ne voient pas derrière. Et pourtant, on peut gratter. Comme l'on soit jeune converti, ou très compétent dans la foi, penserions-nous. Comme Samuel, on sait que l'on n'a pas toujours vu et que nous avons besoin du Seigneur pour voir. Oui, Seigneur, d'accord, mais tu vois, je suis confronté à un choix, qu'est-ce que je vais faire ? Ma réponse, c'est... Enfin, c'est pas ma réponse. La réponse à donner à cette question, elle me semble évidente quand, dans la Bible, on regarde ceux qui voyaient au-delà du visible. Pascal nous en a parlé. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Chapitre 12, chapitre 11. Et justement, j'avais envie d'en parler. C'est curieux, voilà. Moi, j'en ai un pour vous, d'exemple. Mais il y en a plusieurs, et vous pourriez venir ici et en donner d'autres. C'est l'histoire d'un homme qui habite dans une ville ultra-moderne. Ultra-moderne. Une ville qui est l'espoir de l'humanité. Vous comprenez ? Les gens qui sont dans cette ville sont dans l'espoir de l'humanité. Ouais ! Une ville avec des axes routiers bien construits. Une ville avec des structures policières et administratives bien organisées. Ça ne peut que marcher. Des écoles, des bibliothèques, des musées à l'époque. Des tours élevées vers le ciel. Élevées vers le ciel. Mais pour quelle raison? C'est pour les sondages. C'est pour connaître l'avenir. Rien n'a changé sous le soleil. On est en moins 2000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, bah c'est la même chose. Hein? Gérer l'avenir. C'est une ville merveilleuse qui pense à l'avenir. Regardez, ils ont tous des programmes. Qui donnent réellement l'espoir d'un monde meilleur. Et là, je vous interpelle, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des mouvements évangéliques, chrétiens, d'origine chrétienne, qui veulent faire un monde meilleur, et qui construisent, enfin, qui prétendent, ils disent, j'ai vu que pour faire le monde meilleur, c'est ça qu'il faut faire. Et nous, les chrétiens, on pourrait être séduits, il y en a qui ont été séduits. On entend dans la culture, si vous écoutez la radio, si n'écoutez pas la télé parce que c'est terrible, la radio aussi, n'écoutez pas trop la radio parce que c'est terrible aussi, ils ont tous vu, hein. ils voient quoi, hein. Et ils veulent faire un monde meilleur, et ils y croient, ils veulent faire un monde meilleur, ils y croient au point que nous aussi nous pourrions être séduits par l'idée qu'on pourrait construire avec la méthode de ce monde un monde meilleur. Ouh là là. Tous les gens adhèrent. C'est super. Ils votent pour. Tous. Ben non, il y a une famille qui est un peu bizarre. Un peu louche. Pas franchement louche, mais quand même bizarre. Pas tout à fait normal. Il y a un de leurs fils qui est mort. Et ils sont franchement pas normaux. Pourquoi ils sont pas normaux ? Parce qu'ils ne veulent pas de cette ville. Ils ne veulent pas. Ils veulent partir. Enfin, c'est fou. À l'époque, quand même, la ville, c'est sécure. Il n'y a pas d'animaux sauvages. Il n'y a pas de malfrats dans la ville. Il y a les policiers, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a quelquefois quelques petits débordements, mais quand même, voilà. Ils ne veulent pas, ces gens, de cette ville merveilleuse. Et pourquoi ? Pourtant, il n'y a de salut en aucun autre, en aucune autre politique. Unissons-nous, travailleurs. Nous y arriverons. Abraham était héritier, comme ses frères, de l'histoire familiale, Abraham. Ils étaient descendants de Sem, de Shem, comme vous voulez. Et ils connaissaient le problème. Le problème, c'est le péché. Ah ben ça, on n'en entend pas parler, mais alors, nulle part. Le problème, c'est le péché. On le voit, nous. Mais on le voit comme le nez au milieu de la figure. On voit le péché partout. Mais pour eux, il n'existe pas le péché. C'est pas un problème. Ah si, c'est un problème qu'on peut réussir à régler par les systèmes administratifs, par la justice, hein, le tortionnaire ou l'oppresseur, eh bien, il devient opprimé après, lorsqu'il est en prison. Parce qu'il est en prison, le pauvre. Il était oppresseur avant, mais non, il est opprimé parce qu'il est en prison. Et puis, il a la peine de mort ou pas la peine de mort. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes comme vous voulez, hein. Mais le Seigneur, lui, il est pour la peine de mort. Enfin, c'est pas qu'il est pour la peine de mort. Il dit, le péché produit la mort. Et les gens ont l'air de croire qu'en étant contre la peine de mort, ils vont régler le problème de la mort. Ils ont une vue particulière, n'est-ce pas ? C'est quoi le péché? C'est la croyance qu'on peut disposer de soi-même. C'est la croyance qu'on peut disposer de soi-même. C'est faire de son moi son Dieu. Le péché est entré dans le monde, nous est-il dit, par un seul homme. Et donc la mort s'est étendue à tous les hommes. Hein. Tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Le péché, c'est mon problème. C'est ton problème. Il a été réglé à la croix. Et aujourd'hui, il t'a emmené dans un voyage pour aller vers le nettoyage complet du péché. Juridiquement, c'est fait. Et là, dans ta vie d'aujourd'hui, c'est la sanctification, c'est la volonté de Dieu de faire de toi quelqu'un que tu n'étais pas avant. Voilà. Abraham comprend ça. Il comprend aussi que Dieu veut libérer l'homme et lui donner une véritable cité. Ça nous l'est dit directement. Une cité merveilleuse. Ce que veut faire l'être humain, les humains, c'est ce que veut faire Dieu. Mais lui, c'est une cité réellement merveilleuse. La sienne, la cité de Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 10. Celle qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils sont tous architectes, tous constructeurs. Celle qui a de solides fondements, c'est celle que Dieu a fait. Et je crois que, en tant que chrétiens, nous avons besoin, aujourd'hui, dans ce brassage médiatique qui nous fait penser, sans le dire, qu'on peut construire un monde meilleur, pourrait nous séduire. Or, il n'y a pas de possibilité d'un monde meilleur sans la croix de Jésus-Christ, sans la mort de Jésus-Christ à la croix, sans le fait qu'il ait payé mon péché à ma place, sur la croix, et qu'il me permet d'avoir une vision différente des choses. C'est ce que Dieu veut. Abraham voit les choses différemment. Et sa famille aussi, elle est plus ou moins d'accord. Et vous savez que Nakhor et Lot, hein, il y avait Terak, Abraham, Nakhor et Haran. Et Haran meurt au pays de sa naissance, à Ur-en-Chaldée, et il a un fils qui s'appelle Lot, qui devient le fils adoptif, si on veut, presque le neveu de Abraham, avec lequel Abraham a beaucoup de liens affectifs et spirituels. Et Nakhor aussi, probablement. Nakhor aussi. Et puis, vous savez ce qui se passe. Hein, il a besoin d'être en contact avec Dieu. C'est un besoin, Abraham. Il faut qu'il soit en contact avec Dieu. Il ne sait pas comment faire. Il fait comment, hein. Il bâtit des autels. Et quand on le voit à Sichem, on ne le voit pas avant s'il fait des autels, on ne sait pas trop. Mais il bâtit un autel à Sichem, hein, et à Bethel. Hein, à Sichem, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 7. Et à Bethel, c'est juste après, c'est 20 km plus loin, ou 30 km. Bethel, c'est à 20 km au nord de Jérusalem. Enfin, c'était pas Jérusalem à l'époque, c'était Salem, l'endroit où il y avait Melchizedek. Et là, donc, il bâtit des autels. Il veut rester en contact avec Dieu. Il essaye. D'accord. Abraham vient à Dieu comme le veut Jésus. Il vient à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne le dit pas aux gens inconvertis. Il le dit aussi et surtout aux gens qui sont à lui. Venez à moi. Et donc, qu'est-ce que fait Abraham? Rien. Enfin, rien. Il vient à Dieu. Rien. Ben, rien. Pour les gens du monde, il faut agir, quoi. Tandis que là, non. C'est le fait de venir à Dieu. Et notre démarche, c'est d'abord de venir à Dieu. Ça ne se voit pas. On vient à Dieu, vous venez à Dieu ou vous ne venez pas à Dieu. Là, comme actuellement, c'est vous qui le voulez. Et ça ne se voit pas. C'est entre Dieu et vous. Et puis Dieu s'adresse à Abraham dans une vision. Quand Abraham revient d'Égypte où il a fait une bêtise, il retourne dans le pays de Canaan et il, Il va faire encore un autel à Mamré, c'est dans Genèse chapitre 18. Hein. Mais Abraham, vous voyez, il vient à Dieu comme le veut Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, mais du repos pour vos âmes, pour votre âme. Hein. » Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Je vous traduis autrement, « Allez au rythme qui est le mien. » Prenez mon joug sur vous, ça veut dire je vais mettre un truc là qui va m'embêter. Non, c'est on va marcher ensemble, de progrès en progrès, et je vais te montrer le chemin. Je suis le bœuf adulte, et toi tu es le petit veau qui frétille encore, et puis il faut que dans le joug là, hein, tu avances. Je pense à moi, hein, je pense pas à vous, hein, voilà. Il faut que ça avance. Hein, voilà. Prenez mon joug sur vous, allez au rythme qui est le mien, soyez instruits par moi, en gros, hein, et parce que je suis doux et humble de cœur. Donc je dois reconnaître, moi, que devant les médias, devant ce qui se passe actuellement, j'ai quelquefois des bouffées de chaleur, des bouffées de colère. Ça me prend, mais j'hurlerai. Tellement c'est honteux. C'est pas ce qui se passe. Mais Dieu nous dit, vas-y, prends le joug. Vas-y, t'énerve pas, ça sert à rien. Hein? Je suis doux et humble de cœur, dit Dieu. Mais Seigneur, tu peux être doux et humble de cœur dans une situation pareille comme il y a aujourd'hui. C'est horrible. Non, Dieu me dit humble et doux de cœur. Et là, vous serez en repos. Là, vous serez en repos. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il sort d'Ur en Chaldée et il s'en va à Charan. Ben, son père l'accompagne. Or, si vous voulez, dans Genèse chapitre 11, verset 31, hein, il nous est dit, Dieu lui donne une promesse. Hein, il lui dit, voilà. Oh, ben, écoutez, on va le prendre quand même. Hein. Genèse 11, 31. Il nous est dit, Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ah bon? Ils n'ont pas été en Canaan, ils sont allés à Charan, au nord, en Syrie, si vous voulez. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Puis Térak mourut, nous est-il dit. Mais dans Actes chapitre 7, le discours d'Étienne devant les pharisiens, hein, et le Sanhédrin, il nous dit que, en fait, c'était à Abraham que Dieu s'était adressé. Et il nous est dit. Au verset 1 du chapitre 12 de Genèse, va-t'en de ton pays. Tu sors de ton pays. Bon, c'est bien. Mais non, tu sors aussi de ta patrie. C'est-à-dire qu'il y a tes pères aussi, mais il faut que tu sortes de tes pères aussi. Ah, hein, ouais. Mais et mon papa. Et ton papa aussi. Ouais. Les trois. Ton pays, ta patrie et ton père. Pour le pays que je te montrerai. Oui, il est comment ton pays là? Il y a la Wi-Fi, il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut. Le pays que je te montrerai. Oui, mais c'est où? Je te montrerai. Et Abraham obéit. Pour quelle raison il obéit? Parce qu'il n'est pas comme dans cet esprit de ce monde, de cette ville qui est la ville merveilleuse qui va sauver l'humanité. Non, pas du tout. Il sait que le seul qui puisse l'aider, c'est celui qui a le problème du péché en vue, et qui a envie que Abraham sorte de cette mentalité. Nous sommes 20 siècles plus tard, après Jésus-Christ. 20 siècles avant Jésus-Christ, c'était comme ça. 20 siècles plus tard, on en est toujours au même point. Il y a des gens qui s'imaginent que nous sommes dans un monde meilleur aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a la machine à laver les vaisselles, il y a la machine à laver, il y a des choses qui aident quand même les dames, parce qu'avant, qu'est-ce qu'elles bossaient, bon. Et puis les hommes étaient bûcherons, ils étaient agriculteurs, ils grattaient la terre, il y avait des épidémies, il y avait des pestes, le choléra, etc. C'était terrible. Maintenant, il y a les pénicillines, il y a Louis Pasteur, enfin bref, il y a le BCG, enfin, etc. Et ça va mieux. Ça va mieux. Voilà l'idée. Ça va beaucoup mieux. Réfléchissons à ça. Hein. On se dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la façon dont on voit la vie d'aujourd'hui. Ils sortent, ils vont donc à Charan, et Dieu ne semble pas reprocher à Abraham de rester avec son père et avec sa famille, avec sa patrie. Enfin, sa patrie très rapprochée. Mais il lui dit quand même à un moment donné, il faut que tu ailles à Canaan. Il faut que tu sortes. Donc il descend. Il descend. Et Dieu lui donne une nouvelle promesse. Hein, dans Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2, il nous est dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça fait plaisir de savoir qu'on est source de bénédiction. On se dit, qu'est-ce qu'on est nul, nous ? Qu'est-ce que je suis nul ? Je ne vais pas pouvoir être source de bien quelque part. J'ai déjà tellement de problèmes avec moi-même. Non, tu seras une source de bénédiction. Tu vas être une source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction. Là où Dieu vous a placé, vous avez une vision qui va au-delà du réel, du visible. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Les gens vont venir vous voir. C'est peut-être déjà arrivé en disant, mais t'es bizarre, toi. T'es pas comme les autres. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui te motive? Comment ça se fait que tu peux être heureux comme ça? Mais enfin, tu vois, tout va à volo, ça va pas bien. Comment ça se fait que t'as cette espèce de solidité intérieure? C'est toi, c'est toi qui es fort toi-même. C'est toi, jeune fille, ou jeune femme, qui a l'air d'être solide. Et c'est pas que t'as l'air, tu es vraiment solide. Mais qu'est-ce qui te donne cette solidité? Voilà. Et les gens, c'est comme ça que Dieu va agir dans nos vies sans que nous le voulions vraiment, et que nous serons des témoins sans que nous le voulions vraiment. C'est ce que fait Abraham. Il est un témoin de Dieu, sans grande envergure, semble-t-il. Il fait simplement que sortir d'Ur en Chaldée, de sortir de Charan et de toujours suivre ce que Dieu désire. Dieu lui fait une promesse. Il quitte Charan à la mort de Térakh. Hein? Dieu apparaît. Dieu lui redonne une promesse. On voit ça dans le verset 7 du chapitre 12. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ah, ça y est. Le pays commence à se voir, à ta postérité, pas à toi. Et Abraham bâtit là un autel éternel qui lui était apparu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a-t-il tout compris? A-t-il tout eu d'un seul coup? Non. C'est parce que je veux, parce que tu veux obéir à Dieu, que tu vas commencer un petit pas avec lui, qui va devenir un grand pas, parce que quand même, entre Haran, Charan et Ur en Chaldée, il y a quand même un chemin. Hein. Et entre Charan et puis le Canaan, il y a aussi du chemin, quoi. Hein. Et il faut partir dans un pays de sauvages, quoi, hein, avec des gens bizarres, quelquefois. Hein. Et il faut y aller. Et donc, Abraham le fait. Et toi et moi, quand le Seigneur nous dit quelque chose, on le fait. On ne sait pas trop où sa façon de nous emmener, mais on le fait. Et puis c'est à ce moment-là que Dieu va faire un pas de nouveau avec nous. On a l'impression que le Saint-Esprit devrait nous éclairer et nous dire tout d'un seul coup. Ben non. D'ailleurs, quand Dieu parle à Abraham, il dit le pays que je te montrerai, Abraham, est-ce qu'il pense que Canaan est le pays que Dieu lui a montré? Il lui dit, mais ce sera ton pays. Ah bon, ah, c'est donc ça mon pays. Et puis on sait dans Hébreux, chapitre 11, que Abraham savait très bien que ce n'était pas ça son pays, c'était autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction que Dieu donne. Et il donne quand même à Abraham un pays, le pays de Canaan. Et puis voilà qu'il y a une famine. Alors, est-ce que je dois retourner à Ur en Chaldée? Ah non. Est-ce que je dois retourner à Charan? Ah non. C'est ma patrie, c'est la maison de mon père. Il n'est plus là, mais il y a un accord qui est là. Hein? D'ailleurs, une de ses filles sera, ou de ses petites filles, je ne sais plus, sera Rebecca. Hein? Bon, voilà, hein? Voilà. Et donc, est-ce qu'il va retourner en Chaldée? Non, non, il faut que je me sorte de là, tout seul. Et on ne sait pas ce qu'il fait, mais on se dit, il faut que j'aille me nourrir en Égypte. Et donc il sort en Égypte. Il ne nous est pas dit que Dieu reproche à Abraham d'aller en Égypte, mais il y va quand même. Hein. Et il y va avec une certaine crainte. Et on ne peut pas dire qu'Abraham ait été très courageux et que, arrivé en Égypte, il est solide, quoi. Hein. Dans sa foi, oui, il est solide dans sa foi, mais quand même, sa femme est super belle. Elle a 65 ans. Elle a une superbe beauté. Et alors, c'est ce qui se passe. Hein, Pharaon la prend pour femme. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même gênant, quoi. Hein, c'est quand même pas terrible, quoi, cette histoire. Et finalement, Abraham va ressortir d'Égypte avec une certaine honte, un certain mépris, quoi, de la part certainement de ses serviteurs et de ses servantes et de tout ce qui s'est passé. Wow, la honte, quoi. Il retourne en Canaan. Après un certain temps en Égypte, hein, parce que on s'est aperçu en Égypte, enfin la maison de Pharaon, ils étaient tous stériles, donc ça met un certain temps avant qu'on s'en aperçoive, quoi. Et puis donc, il ressort avec sa femme, avec Lot aussi, puisque Lot l'avait suivi. Et arrivé en Canaan, Abraham recherche encore la volonté de Dieu. Il cherche encore à être en communion avec Dieu. Il a eu un moment de faiblesse. C'est pas pour ça que Dieu le lâche, n'est-ce pas? Il va en Égypte à cause de la beauté de sa femme, qui, je rappelle, avait 65 ans. Donc, mesdames, si vous avez 65 ans ou plus, vous êtes des jolies femmes. Mais peut-être qu'elle, elle était très, 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 très jolie, et probablement très, très jolie. Et Pharaon, donc, dédommage Abraham pour l'affront qu'il lui a fait. Et Abraham remonta en Canaan, enfin c'était un affront qui n'était pas voulu, mais enfin bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus, c'est triste. Hein, encore, et donc il est encore plus riche qu'avant, Abraham. Et donc quand ils arrivent en Canaan, ils sont tellement riches, surtout Abraham, par rapport à Lot, qu'il se passe un problème économique, c'est que la contrée n'est pas assez... n'est pas assez grande pour pouvoir s'occuper de nourrir toute cette tribu et tous ces animaux. N'est-ce pas ? Et vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Il y a une querelle. Et qu'est-ce qui se passe ? Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et vous savez ce qui se passe ? Quelque chose qui devrait vous tilter, je pense qu'il vous tilte, c'est que Abraham, c'est le patriarche. C'est lui le chef. Et il peut dire, bon, écoute, Lot, maintenant tu t'en vas, tu dégages. Hein. Écoute, mon Dieu, je t'aime bien, mais il faut que nos bergers ne se tapent plus dessus les uns sur les autres. Hein. Les puits sont déjà pas à sec, mais il n'y en a pas beaucoup. Débrouille-toi, tu t'en vas. Hein. Je t'ai aidé pendant longtemps. Et est-ce que Abraham fait ça? Mais pas du tout. Ça. Est-ce que Abraham dit, je suis le patriarche, celui qui a le droit de tout? Il aurait pu le dire, c'était ce qu'il fallait faire, humainement parlant. Il ne le fait pas. Pour quelle raison ? Puisqu'il a une vue qui va au-delà du visible. Parce que dans la Bible, il nous est dit qu'à l'époque, donc les écrits de la Genèse ont été écrits par Moïse à une époque où la vallée de Sodome était désertique, brûlée, morte. Mais Moïse rappelle au peuple que cette vallée-là, c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme l'Égypte. Et quand Lot voit ce jardin de l'Éternel, il ne se fait pas de problème, puisque Abraham lui propose de choisir, d'y choisir. C'est injuste, c'est injuste, c'est un homme juste, Lot. Il nous est dit que c'était un homme juste qui se tourmentait pour le comportement de ses contemporains. Et nous, nous sommes aussi comme ça, hein. Nous nous tourmentons pour le comportement de nos contemporains aujourd'hui, 40 siècles plus tard. Eh bien, il choisit. Il choisit quand même la plaine de Sodome, alors qu'il devait savoir. Hein. L'autre, il savait quand même. Hein. Parce que vous savez, le téléphone arabe, à l'époque, ça marche. Hein. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi à l'époque pour être tous au courant. Hein. Bon, voilà. Et puis voilà. Donc, cette querelle a créé une séparation, hélas, au détriment de Lot. Et pourtant, à vue humaine, c'était complètement stupide de rester dans les montagnes. Il aurait, économiquement, c'était idiot. Il fallait aller dans la plaine. Mais non, Abraham a une vue qui va bien plus loin. Et c'est là qu'on voit qu'il a le Saint-Esprit. Pas d'une manière extraordinaire qui s'exprime par des choses extraordinaires, non, par une vision d'au-delà du visible. Il choisit le reste de la montagne qui est beaucoup moins riche, moins productive, qui ne fait pas valoir ses droits de patriarche, qui est le droit de l'aîné, hein, de l'aîné. Il était l'aîné de sa famille, hein, Abraham, Nakor, Haran. Voilà. Ce comportement d'Abraham, toujours attentif à ce qu'il voit, ne réagit pas, n'est-ce pas, seulement à ce qui est visible. Hébreux 11, 28, Abraham s'en va de Ur en Chaldée, mais il ne savait pas, et c'est ce qui nous est dit au chapitre 11, verset 8, il ne savait pas précisément où il devait aller. Il fait entièrement, hein, confiance à Dieu. Hein. Il fait simplement ce qu'il comprend de Dieu, et pas plus, Abraham. Nous devons faire la même chose. On fait simplement ce qu'on comprend de Dieu. Il y a certainement d'autres choses qu'il va nous dire, mais déjà ce qu'on a compris de Dieu, on le fait. Voilà. Il arrive en Canaan, il ne fait pas le propriétaire. Dieu lui dit pourtant, c'est ton pays, mais ça ne fait pas de lui le propriétaire. Verset 9 du chapitre 11 d'Hébreux. Il ne se fait pas propriétaire, parce qu'il voyait au-delà du visible. C'est ce qui nous est dit, Hébreux 11, verset 10. Il reste en paix parce qu'il est obéissant. Et pourquoi est-il obéissant? Parce qu'il marche sans duplicité. Ce que Dieu lui dit, il le fait. Mais il ne sait pas grand-chose. Avec sincérité devant Dieu, dans la lumière, tout en disant qu'il est pécheur, mais sans hypocrisie. Il ne cherche pas le territoire, il s'attend à Dieu, à rien d'autre. 1 Jean 1, versets 8 à 10. 1 Jean 1, versets 8 à 10. Versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Hein? Je répète, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Les gens de ce monde d'aujourd'hui n'ont pas de péché. Ils ont tout compris, ils ont tout vu. Et la vérité n'est pas en eux. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qu'Abraham faisait. Autel, autel, autel. Toujours des autels. Sacrifice. Le sacrifice d'Abel. Le sacrifice d'Abraham, c'est ça. Voilà. N'oubliez pas. Il tuait des animaux pour son iniquité, pour son péché. Il était en communion avec Dieu, tout en étant bien conscient. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et ça, c'est vraiment l'esprit de ce monde d'aujourd'hui. Nous sommes les meilleurs. Nous allons donner la civilisation à tous les pays du monde. Nous savons. Excusez-moi, je vais peut-être être agressif. Nous sommes woke. Vous savez, c'est le nouveau truc, ça. Nous sommes réveillés. Il y a comme une notion évangélique pervertie qui s'est développée, pas uniquement en Amérique, hein, un peu partout. Nous sommes éveillés. Nous sommes awake. Nous sommes aware. Nous sommes éveillés. Nous voyons. C'est ça que ça veut dire, hein, éveillé. Nous voyons. Et alors, il ne voit rien. Ce que voyait Abraham, la seule chose qu'il le voyait, c'est qu'il devait de temps en temps faire un sacrifice à Dieu à cause de son péché. Et il préfigurait le sacrifice de son propre fils. Et il préfigurait le sacrifice, le vrai, celui de Jésus-Christ. Vous voyez, cette tangente entre l'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu. C'est curieux, ça. Et donc, dans les milieux chrétiens, on peut avoir ce genre de choses. Terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc, il a choisi le reste de la montagne. Il ne fait pas valoir ses droits. Abraham s'en va de Ur en Chaldée, sans savoir où il allait, mais il sait où il va. Il va du côté où Dieu l'amène. Voilà, c'est tout. Il voyait au-delà du visible. Dieu est fier d'avoir des hommes comme ça, des hommes et des femmes comme ça. Il est fier. Je leur ai pas dit où est-ce qu'ils vont s'en aller. Mais je leur dis, ils savent qu'il faut y aller. Alors ils y vont, c'est super. C'est ce qu'il nous est dit au verset 16 du chapitre 11 de Hébreux. Hein? Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et je suis leur Dieu. Et vous imaginez Dieu en train de dire ça pour vous, dans les cieux, là, quelque part maintenant, peut-être, sûrement. Hein? En train de dire, j'ai pas honte d'être leur Dieu. Ils sont pécheurs. Ouais, ils ont été lavés, purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà. Et je suis très fier de les avoir comme mes enfants. Voilà. Abraham n'agit pas d'après son propre point de vue, mais d'après celui de Dieu. Je fais que répéter ce que disait Pascal, hein, au début. Hein. En fait, finalement, on perd son temps, là, non ? Hein ? Bon. Mais son propre point de vue, mais celui de Yahvé El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui peut tout fournir. El Yon, celui qui est le plus haut. El Elyon, hein, celui qui est le plus haut. Celui dont Melchizedek va parler, El Yon, c'est le même. C'est celui qui est Tout-Puissant. Et cela, tout au long de sa vie, il a suivi, tant qu'il pouvait, les petits indices de Dieu. Les petits indices. Surtout marcher comme Dieu. Surtout, il faut que je marche comme Dieu. Bah, je suis allé en Égypte, je crois que je me suis trompé. Mais même en Égypte, j'aurais pu marcher comme Dieu le voulait, c'est-à-dire de dire que j'étais le mari de ma femme. Et il n'y aurait pas eu de problème. Enfin, je pense, moi. Mais il avait tellement peur d'être tué. Ça veut dire qu'il savait que sa femme était très jolie. Hein? Mais il s'y passait devant sa femme. C'est quand même un peu pas top, quoi. Surtout marcher comme Dieu. À petits pas, ceux de Dieu, apparemment lentement, parce que quand on regarde Abraham, c'est lent tout ça. Il part de Ur en Chaldée, il a quel âge ? 75 ans. S'imaginez-vous ? Bon, il a vécu jusqu'à 170 ans, hein, je crois, un truc comme ça. Hein. Donc, bon, c'est pas les mêmes développements de vie. Hein. À 65 ans, elle n'était peut-être pas avec un âge que, mesdames, vous avez à 65 ans. C'est-à-dire plus vieillissante qu'elle devait l'être, je suppose. Je sais pas. Hein. Bon, voilà. Voilà. Lentement et sûrement. Et là, vous aurez une vision de ce que Dieu veut pour vous. Hein. Alors, il n'est pas le seul à être comme ça. Il y en a un, son petit-fils, Jacob. Il est avec, je crois qu'il est avec Joseph, enfin, il est à la fin de sa vie, il se met sur son bâton, Il se lève de son lit, on sent qu'il est sur son lit de mort, hein. Il nous a dit qu'il est sur son lit de mort. Et il regarde vers l'avenir. Alors, en général, les gens qui meurent, et bon, ils meurent, et puis c'est tout, puis ils sont avec leurs enfants, et puis ils se font des bisous, enfin, etc., et puis c'est tout terminé, quoi. Dans les cas, c'est, il regarde vers l'avenir. Il adora sur son bâton. Il adora Dieu, parce qu'il voyait, quoi, il nous a dit, Hébreux 11, 39, 40, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Il adora sur son bâton. Hein, il avait encore la vue qui va au-delà du visible. Hein. Voilà. Il va mourir et il regarde au-delà du visible. Qui est sa mort prochaine. Hein. Le visible, c'est vraiment ça, quoi. Il est sur son lit de mort, quoi. Non, il va plus loin. Hébreux 11, 39, 40. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'illusion de la vision immédiate n'avait pas de prise sur eux. Alors, pour vous aussi, hein, comprenez? Pour moi aussi, hein, c'est le cas de le dire, parce que bon, j'ai une chance sur 9, je crois, ou 10, de m'en sortir, pareil. Bon. Ils voyaient plus loin. Hein, ils voyaient plus loin. Car ils étaient constamment en prière. Constamment en prière, comme Abraham était en prière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai encore le temps? Juste un court instant. Abraham n'a jamais agi. Il a toujours été à faire des hôtels, etc. Sauf une seule fois. Lot, qui avait choisi le mauvais camp, a été emporté en Mésopotamie, et parce qu'il y avait des problèmes économiques et les impôts, ben ces gens-là les payaient plus. C'est pas bien de payer, de pas payer ses impôts. Alors les autorités en question sont venues chercher leurs impôts. Hein, ils ont pris les gens. Bof, hein. Et puis donc Abraham, ben qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon neveu, il n'est pas question que je le laisse tranquille. Et donc il s'associe avec les jeunes hommes, les jeunes chefs associés juste pour la guerre, hein, les jeunes chefs du coin, quoi. Et puis ils s'en vont. Il gagne, il ramène l'hôte, il ramène tout le monde. Et donc, le roi de Sodome dit, tu gardes les richesses, mais tu me laisses les hommes. Et exactement comme aujourd'hui, 40 siècles plus tard, on vous donne des richesses, mais on prend les hommes. Hein? Ce que veut le chef de Sodome, c'est prendre les hommes. Satan veut prendre les hommes. Je vous donne les richesses. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais tu me donnes les hommes. Et donc, Abraham répond, il est hors de question que dans tes médias, dans tes informations que tu donneras plus tard, tu dises que tu as enrichi Abraham. Il est hors de question que je sois enrichi par un homme tel que toi. Ça, c'est pour nous aussi. Hein? C'est-à-dire, ne nous laissons pas enrichir par des hommes tels que le roi de Sodome, qui est une préfiguration de l'Antéchrist. Hein? Voilà ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Hein? C'est que nous avons... C'est merveilleux, je le sais, vous avez une vue qui va plus loin que le visible. Comme Abraham, je vous encourage, et je m'encourage aussi en même temps, à avoir cette vision qui va plus loin que le visible, et qui a l'air de ne rien faire dans notre vie, enfin de ne pas avoir de conséquences, sauf que ça a quand même une grande conséquence, parce que rien que cette attitude d'esprit, cette disposition d'esprit, nous amène à savoir ce qu'il faut faire au temps où il faut, au temps marqué. Voilà. Voilà, je termine par la prière. Merci Seigneur, notre Père, notre Dieu, de ce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, qui nous permet de voir au-delà de ce qui nous semble réel et qui quelquefois s'impose comme voulant être le réel tout entier et qui ne l'est pas du tout. Seigneur, nous voulons te demander que tu éclaires nos nos contemporains, que tu permettes que notre comportement paisible et doux amène d'autres à comprendre que le visible est bien ailleurs de ce qu'ils voient, et que toi, Seigneur, tu es là pour nous encourager à aller vers cette cité céleste, cette cité dont tu es l'architecte et le constructeur, et qui n'est la seule qui a un réel fondement correct. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser séduire par ce monde d'aujourd'hui impie qui emmène tout le monde vers l'enfer. Seigneur, nous voulons encore, nous te supplions, que tu nous aides à être des agents qui arrachent les autres de l'enfer. Nous voulons te remercier de ce que tu nous as arraché de l'enfer grâce à notre Seigneur bien-aimé qui est devenu notre maître à tous. Amen.